Henri Poincaré, La valeur de la science, troisième partie, la valeur objective de la science. Chapitre 10, la science est-elle artificielle? 1. La philosophie de Monsieur Leroy. Voilà bien des raisons d'être sceptique. Devons-nous pousser ce scepticisme jusqu'au bout ou nous arrêter en chemin? Aller jusqu'au bout, c'est la solution la plus tentante, la plus commode, et c'est celle que bien des personnes ont adoptée, désespérant de rien sauver du naufrage. Parmi les écrits qui s'inspirent de cette tendance, il convient de placer en première ligne ceux de M. Leroy. Ce penseur n'est pas seulement un philosophe et un écrivain du plus grand mérite, mais il a acquis une connaissance approfondie des sciences exactes et des sciences physiques, et même il a fait preuve de précieuses facultés d'invention mathématique. Résumons en quelques mots sa doctrine, qui a donné lieu à de nombreuses discussions. La science n'est faite que de conventions, et c'est uniquement à cette circonstance qu'elle doit son apparente certitude. Les faits scientifiques, et a fortiori les lois, sont l'œuvre artificielle du savant. La science ne peut donc rien nous apprendre de la vérité, elle ne peut nous servir que de règles d'action. On reconnaît là la théorie philosophique connue sous le nom de nominalisme. Tout n'est pas faux dans cette théorie, il faut lui réserver son légitime domaine, mais il ne faudrait pas non plus l'en laisser sortir. Ce n'est pas tout. La doctrine de M. Leroy n'est pas seulement nominaliste. Elle a encore une autre caractéristique qu'elle doit sans doute à l'influence de M. Bergson. Elle est anti-intellectualiste. Pour M. Leroy, l'intelligence déforme tout ce qu'elle touche. Et cela est plus vrai encore de son instrument nécessaire, le discours. Il n'y a de réalité que dans nos impressions fugitives et changeantes, et cette réalité même, dès qu'on la touche, s'évanouit. Et cependant, M. Leroy n'est pas un sceptique. S'il regarde l'intelligence comme irrémédiablement impuissante, ce n'est que pour faire la part la plus large à d'autres sources de connaissances, au cœur, par exemple, au sentiment, à l'instinct ou à la foi. Quelle que soit mon estime pour le talent de M. Leroy, quelle que soit l'ingéniosité de cette thèse, je ne saurais l'accepter tout entière. Certes, je suis d'accord sur bien des points avec M. Leroy, et il a même cité, à l'appui de sa manière de voir, divers passages de mes écrits que je ne suis nullement disposé à récuser. Je ne m'en crois que plus tenu d'expliquer pourquoi je ne puis le suivre jusqu'au bout. M. Leroy se plaint souvent d'être accusé de scepticisme. Il ne pouvait pas ne pas l'être, encore que cette accusation soit probablement injuste. Les apparences ne sont-elles pas contre lui? Nominaliste de doctrine, mais réaliste de cœur, il semble n'échapper au nominalisme absolu que par un acte de foi désespéré. C'est que la philosophie anti-intellectualiste, en récusant l'analyse et le discours, se condamne par cela même à être intransmissible. C'est une philosophie essentiellement interne, ou tout au moins ce qui peut s'en transmettre. Ce ne sont que les négations. Comment s'étonner alors que pour un observateur extérieur, elles prennent la figure du scepticisme? C'est là le point faible de cette philosophie. Si elle veut rester fidèle à elle-même, elle épuise sa puissance dans une négation et un cri d'enthousiasme. Cette négation et ce cri, chaque auteur peut les répéter, en varier la forme, mais sans rien y ajouter. Et encore, ne serait-il pas plus conséquent en se taisant? Voyons, vous avez écrit de longs articles. Il a bien fallu pour cela que vous vous serviez de mots. Et par là, n'avez-vous pas été beaucoup plus discursif, et par conséquent beaucoup plus loin de la vie et de la vérité, que l'animal qui vit tout simplement sans philosopher? Ne serait-ce pas cet animal qui est le véritable philosophe? Pourtant, de ce qu'aucun peintre n'a pu faire un portrait tout à fait ressemblant, devons-nous conclure que la meilleure peinture soit de ne pas peindre? Quand un zoologiste dissèque un animal, certainement il l'altère. Oui, en le disséquant, il se condamne à n'en jamais tout connaître. Mais en ne le disséquant pas, il se condamnerait à n'en jamais rien connaître, et par conséquent, à n'en jamais rien dire. Certes, il y a dans l'homme d'autres forces que son intelligence. Personne n'a jamais été assez fou pour le nier. Ces forces aveuglent, le premier venu les fait agir ou les laisse agir. Le philosophe doit en parler. Pour en parler, il doit en connaître le peu qu'on en peut connaître. Il doit donc les regarder agir. Comment? Avec quels yeux? Sinon avec son intelligence. Le cœur, l'instinct peuvent la guider, mais non la rendre inutile. Ils peuvent diriger le regard, mais non remplacer l'œil. Que le cœur soit l'ouvrier et que l'intelligence ne soit que l'instrument, on peut y consentir. Encore est-ce un instrument dont on ne peut se passer, sinon pour agir, au moins pour philosopher. C'est pour cela qu'une philosophie vraiment anti-intellectualiste est impossible. Peut-être devons-nous conclure au primat de l'action. Toujours est-il que c'est notre intelligence qui conclura ainsi, en cédant le pas à l'action. Elle gardera de la sorte la supériorité du roseau pensant. C'est là aussi un primat qui n'est pas à dédaigner. Qu'on me pardonne ces courtes réflexions, et qu'on me pardonne aussi de les faire si courtes et d'avoir à peine effleuré la question. Le procès de l'intellectualisme n'est pas le sujet que je veux traiter. Je veux parler de la science, et pour elle, il n'y a pas de doute, par définition, pour ainsi dire, elle sera intellectualiste, ou elle ne sera pas. Ce qu'il s'agit précisément de savoir, c'est si elle sera. 2. La science, règle d'action. Pour M. Leroy, la science n'est qu'une règle d'action. Nous sommes impuissants à rien connaître, et pourtant nous sommes embarqués, il faut agir, et à tout hasard, nous nous sommes fixés des règles. C'est l'ensemble de ces règles qu'on appelle la science. C'est ainsi que les hommes, désireux de se divertir, ont institué des règles de jeu, comme celle du tric-trac, par exemple, qui pourrait, mieux que la science elle-même, s'appuyer de la preuve du consentement universel. C'est ainsi également que, hors d'état de choisir, mais forcé de choisir, on jette en l'air une pièce de monnaie pour tirer à pile ou face. La règle du tric-trac est bien une règle d'action comme la science. Mais croit-on que la comparaison soit juste? Et ne voit-on pas la différence? Les règles du jeu sont des conventions arbitraires, et on aurait pu adapter la convention contraire, qui n'aurait pas été moins bonne. Au contraire, la science est une règle d'action qui réussit, au moins généralement, et j'ajoute, tandis que la règle contraire n'aurait pas été ainsi. Si je dis, pour faire de l'hydrogène, faites agir un acide sur du zinc, je formule une règle qui réussit. J'aurais pu dire, faites agir de l'eau distillée sur de l'or, cela aurait été aussi une règle, seulement elle n'aurait pas réussi. Si donc les recettes scientifiques ont une valeur comme règle d'action, c'est que nous savons qu'elles réussissent, du moins en général. Mais savoir cela, c'est bien savoir quelque chose. Et alors, pourquoi venez-vous nous dire que nous ne pouvons rien connaître? La science prévoit, et c'est parce qu'elle prévoit qu'elle peut être utile et servir de règle d'action. J'entends bien que ces prévisions sont souvent démenties par l'événement. Cela prouve que la science est imparfaite. Et si j'ajoute qu'elle le restera toujours, je suis certain que c'est là une prévision qui, elle du moins, ne sera jamais démentie. Toujours est-il que le savant se trompe moins souvent qu'un prophète qui prédirait au hasard. D'autre part, le progrès est lent, mais continu, de sorte que les savants, quoique de plus en plus hardis, sont de moins en moins déçus. C'est peu, mais c'est assez. Je sais bien que M. Leroy a dit quelque part que la science se trompait plus souvent qu'on ne le croit, que les comètes jouaient parfois des tours aux astronomes, que les savants, qui apparemment sont des hommes, ne parlaient pas volontiers de leurs insuccès, et que, s'ils en parlaient, ils devraient compter plus de défaites que de victoires. Ce jour-là, M. Leroy a évidemment dépassé sa pensée. Si la science ne réussissait pas, elle ne pourrait servir de règle d'action. D'où tirerait-elle sa valeur? De ce qu'elle est vécue, c'est-à-dire de ce que nous l'aimons et que nous croyons en elle. Les alchimistes avaient des règles pour faire de l'or. Ils les aimaient et avaient foi en elles. Et pourtant, ce sont nos recettes qui sont les bonnes, bien que notre foi soit moins vive, parce qu'elles réussissent. Il n'y a pas moyen d'échapper à ce dilemme. Ou bien la science ne permet pas de prévoir, et alors elle est sans valeur comme règle d'action, ou bien elle permet de prévoir d'une façon plus ou moins imparfaite, et alors elle n'est pas sans valeur comme moyen de connaissance. On ne peut même pas dire que l'action soit le but de la science. Devons-nous condamner les études faites sur l'étoile Sirius, sous prétexte que nous n'exercerons probablement jamais aucune action sur cet astre? À mes yeux, au contraire, c'est la connaissance qui est le but, et l'action qui est le moyen. Si je me félicite du développement industriel, ce n'est pas seulement parce qu'il fournit un argument facile aux avocats de la science, c'est surtout parce qu'il donne aux savants la foi en lui-même et aussi parce qu'il lui offre un champ d'expérience immense, où il se heurte à des forces trop colossales pour qu'il y ait un moyen de donner un coup de pouce. Sans ce lest, qui sait s'il ne quitterait pas terre, séduit par le mirage de quelque scolastique nouvelle, ou s'il ne désespérerait pas en croyant qu'il n'a fait qu'un rêve. 3. Le fait brut et le fait scientifique. Ce qu'il y avait de plus paradoxal dans la thèse de M. Leroy, c'était cette affirmation que le savant crée le fait. C'en était en même temps le point essentiel, et c'est un de ceux qui ont été le plus discutés. Peut-être, dit-il, je crois bien que c'était là une concession, n'est-ce pas le savant qui crée le fait brut? C'est du moins lui qui crée le fait scientifique. Cette distinction du fait brut et du fait scientifique ne me paraît pas illégitime par elle-même. Mais je me plains d'abord que la frontière n'ait été ni tracée, ni d'une manière exacte, ni d'une manière précise, et ensuite que l'auteur ait semblé sous-entendre que le fait brut, n'étant pas scientifique, est en dehors de la science. Enfin, je ne puis admettre que le savant crée librement le fait scientifique, puisque c'est le fait brut qui le lui impose. Les exemples donnés par M. Leroy m'ont beaucoup étonné. Le premier est emprunté à la notion d'atome. L'atome choisi comme exemple de fait. J'avoue que ce choix m'a tellement déconcerté que je préfère n'en rien dire. J'ai évidemment mal compris la pensée de l'auteur et je ne saurais la discuter avec fruit. Le second cas pris pour exemple est celui d'une éclipse où le phénomène brut est un jeu d'ombre et de lumière, mais où l'astronome ne peut intervenir sans apporter deux éléments étrangers, à savoir une horloge et la loi de Newton. Enfin, M. Leroy cite la rotation de la Terre. On lui a répondu « Mais ce n'est pas un fait. » Et il a répliqué « C'en était un pour Galilée qui l'affirmait, comme pour l'inquisiteur qui le niait. » Toujours est-il que ce n'est pas un fait au même titre que ceux dont nous venons de parler, et que leur donner le même nom, c'est s'exposer à bien des confusions. Voilà donc 4 degrés. Il fait noir, dit l'ignorant. L'éclipse a eu lieu à 9 heures, dit l'astronome. L'éclipse a eu lieu à l'heure que l'on peut déduire des tables construites d'après les lois de Newton, dit-il encore. Cela tient à ce que la Terre tourne autour du Soleil, dit enfin Galilée. Où est donc la frontière entre le fait brut et le fait scientifique? À lire M. Leroy, on croirait que c'est entre le premier et le deuxième échelon. Mais qui ne voit qu'il y a plus de distance du deuxième au troisième et plus encore du troisième au quatrième? Qu'on me permette de citer 2 exemples qui nous éclaireront peut-être un peu. J'observe la déviation d'un galvanomètre à l'aide d'un miroir mobile qui projette une image lumineuse ou spot sur une échelle divisée. Le fait brut, c'est « je vois le spot se déplacer sur l'échelle » et le fait scientifique, c'est « il passe un courant dans le circuit ». Ou bien encore, quand je fais une expérience, je dois faire subir au résultat certaines corrections parce que je sais que j'ai dû commettre des erreurs. Ces erreurs sont de 2 sortes. Les unes sont accidentelles, et je les corrigerai en prenant la moyenne. Les autres sont systématiques, et je ne pourrai les corriger que par une étude approfondie de leurs causes. Le premier résultat obtenu est alors le fait brut, tandis que le fait scientifique, c'est le résultat final après les corrections terminées. En réfléchissant à ce dernier exemple, nous sommes conduits à subdiviser notre second échelon et au lieu de dire 2. L'éclipse a lieu à 9 heures, nous dirons 2A. L'éclipse a eu lieu quand mon horloge marquait 9 heures et 2B. Ma pendule retardant de 10 minutes, l'éclipse a eu lieu à 9h10. Et ce n'est pas tout. Le premier échelon aussi doit être subdivisé. Et ce n'est pas entre ces 2 subdivisions que la distance sera la moins grande. Entre l'impression d'obscurité que ressent le témoin d'une éclipse et l'affirmation « il fait noir » que cette impression lui arrache, il est nécessaire de distinguer. En un sens, c'est la première qui est le seul vrai fait brut, et la seconde est déjà une sorte de fait scientifique. Voilà donc maintenant notre échelle qui a 6 échelons. Et bien qu'il n'y ait aucune raison pour arrêter à ce chiffre, nous nous y tiendrons. Ce qui me frappe d'abord, c'est ceci. Au premier de nos 6 échelons, le fait, encore complètement brut, et pour ainsi dire individuel, il est complètement distinct de tous les autres faits possibles. Dès le second échelon, il n'en est déjà plus de même. L'énoncé du fait pourrait convenir à une infinité d'autres faits. Aussitôt qu'intervient le langage, je ne dispose plus que d'un nombre de termes pour expliquer les nuances en nombre infini, que mes impressions pourraient revêtir. Quand je dis « il fait noir », cela exprime bien les impressions que j'éprouve en assistant à une éclipse, mais dans l'obscurité même, on pourrait imaginer une foule de nuances, et si au lieu de celle qui s'est réalisée effectivement, c'eût été une nuance un peu différente qui se fût produite, j'aurais cependant encore énoncé cet autre fait en disant « il fait noir ». Seconde remarque. Même au second échelon, l'énoncé d'un fait ne peut être que vrai ou faux. Il n'en serait pas de même pour une proposition quelconque, si cette proposition est l'énoncé d'une convention. On ne peut pas dire que cet énoncé soit vrai, au sens propre du mot, puisqu'il ne saurait être vrai malgré moi, et qu'il est vrai seulement parce que je veux qu'il le soit. Quand je dis par exemple « l'unité de longueur est le mètre », c'est un décret que je porte, ce n'est pas une constatation qui s'impose à moi. Il en est de même, comme je crois l'avoir montré ailleurs, quand il s'agit par exemple du postulatum d'Euclide. Quand on me demande « fait-il noir ?», je sais toujours si je dois répondre oui ou non. Bien qu'une infinité de faits possibles soient susceptibles de ce même énoncé, il fait noir, je saurai toujours si le fait réalisé rentre ou ne rentre pas parmi ceux qui répondent à cet énoncé. Les faits sont classés en catégories, et si l'on me demande si le fait que je constate rentre ou ne rentre pas dans telle catégorie, je n'hésiterai pas. Sans doute, cette classification comporte assez d'arbitraire pour laisser à la liberté ou au caprice de l'homme une large part. En un mot, cette classification est une convention. Cette convention étant donnée, si l'on me demande tel fait est-il vrai, je saurai toujours que répondre, et ma réponse me sera imposée par le témoignage de mes sens. Si donc, pendant une éclipse, on demande « fait-il noir ?», tout le monde répondra oui. Sans doute cela répondrait non, qui parlerait une langue où clair se dirait noir et où noir se dirait clair. Mais quelle importance cela peut-il avoir ? De même en mathématiques, quand j'ai posé les définitions et les postulats qui sont des conventions, un théorème ne peut plus être que vrai ou faux. Mais pour répondre à cette question, ce théorème est-il vrai ? Ce n'est plus au témoignage de mes sens que j'aurai recours, mais bien au raisonnement. L'énoncé d'un fait est toujours vérifiable, et pour la vérification, nous avons recours soit au témoignage de nos sens, soit au souvenir de ce témoignage. C'est là proprement ce qui caractérise un fait. Si vous me posez la question « tel fait est-il vrai ?», je commencerai par vous demander s'il y a lieu de préciser les conventions, pour vous demander, en d'autres termes, en quelle langue vous avez parlé. Puis, une fois fixé sur ce point, j'interrogerai mes sens et je répondrai oui ou non. Mais la réponse, ce sont mes sens qui l'auront faite. Ce ne sera pas vous en me disant « c'est en anglais » ou « c'est en français » que je vous ai parlé. Y a-t-il quelque chose à changer à tout cela quand nous passons aux échelons suivants ? Quand j'observe un galvanomètre, ainsi que je le disais tout à l'heure, si je demande à un visiteur ignorant « le courant passe-t-il » il va regarder le fil pour tâcher d'y voir passer quelque chose. Mais si je pose la même question à mon aide, qui comprend ma langue, il saura que cela veut dire « le spot se déplace-t-il » et il regardera sur l'échelle. Quelle différence y a-t-il alors entre l'énoncé d'un fait brut et l'énoncé d'un fait scientifique? Il y a la même différence qu'entre l'énoncé d'un même fait brut dans la langue française et dans la langue allemande. L'énoncé scientifique est la traduction de l'énoncé brut dans un langage qui se distingue surtout de l'allemand vulgaire ou du français vulgaire parce qu'il est parlé par un bien moins grand nombre de personnes. N'allons pas trop vite cependant. Pour mesurer un courant, je puis me servir d'un très grand nombre de types de galvanomètres ou encore d'un électrodynamomètre. Et alors quand je dirais Il règne dans ce circuit un courant de temps d'ampères. Cela voudra dire, si j'adapte à ce circuit tel galvanomètre, je verrai le spot venir à la division petit a. Mais cela voudra dire également, si j'adapte à ce circuit tel électrodynamomètre, je verrai le spot venir à la division petit b. Et cela voudra dire encore beaucoup d'autres choses, car le courant peut se manifester non seulement par des effets mécaniques, mais par des effets chimiques, thermiques, lumineux, etc. Voilà donc un même énoncé qui convient à un très grand nombre de faits absolument différents. Pourquoi? C'est parce que j'admets une loi d'après laquelle toutes les fois que tel effet mécanique se produira, tel effet chimique se produira de son côté. Des expériences antérieures, très nombreuses, ne m'ont jamais montré cette loi en défaut, et alors je me suis rendu compte que je pourrais exprimer par le même énoncé deux faits aussi invariablement liés l'un à l'autre. Quand on me demandera « le courant passe-t-il ?», je pourrais comprendre que cela veut dire « tel effet mécanique va-t-il se produire ?» Mais je pourrais comprendre aussi « tel effet chimique va-t-il se produire ?» Je vérifierai donc soit l'existence de l'effet mécanique, soit celle de l'effet chimique. Cela sera indifférent puisque dans un cas comme dans l'autre, la réponse doit être la même. Et si la loi venait un jour à être reconnue fausse? Si on s'apercevait que la concordance des deux effets mécaniques et chimiques n'est pas constante, ce jour-là, il faudrait changer le langage scientifique pour en faire disparaître une grave ambiguïté. Et puis après, croit-on que le langage ordinaire, à l'aide duquel on exprime les faits de la vie quotidienne, soit exempt d'ambiguïté? En conclura-t-on que les faits de la vie quotidienne sont l'œuvre des grammairiens? Vous me demandez, y a-t-il un courant? Je cherche si l'effet mécanique existe. Je le constate et je réponds oui, il y a un courant. Vous comprenez à la fois que cela veut dire que l'effet mécanique existe et que l'effet chimique, que je n'ai pas recherché, existe également. Imaginons maintenant que, par impossible, la loi que nous croyions vraie ne le soit pas et que l'effet chimique n'ait pas existé dans ce cas. Dans cette hypothèse, il y aura deux faits distincts. L'un directement observé et qui est vrai, l'autre inféré et qui est faux. On pourra dire à la rigueur que le second, c'est nous qui l'avons créé. De sorte que la part de collaboration personnelle de l'homme dans la création du fait scientifique, c'est l'erreur. Mais si nous pouvons dire que le fait en question est faux, n'est-ce pas justement parce qu'il n'est pas une création libre et arbitraire de notre esprit, une convention déguisée, auquel cas il ne serait ni vrai ni faux? Et en effet, il était vérifiable. Je n'avais pas fait la vérification, mais j'aurais pu la faire. Si j'ai fait une fausse réponse, c'est parce que j'ai voulu répondre trop vite, sans avoir interrogé la nature, qui seule savait le secret. Quand, après une expérience, je corrige les erreurs accidentelles et systématiques pour dégager le fait scientifique, c'est encore la même chose. Le fait scientifique ne sera jamais que le fait brut, traduit dans un autre langage. Quand je dirai « il est telle heure », cela sera une manière abrégée de dire « il y a telle relation entre l'heure que marque ma pendule et l'heure qu'elle marquait au moment du passage de tel astre et de tel autre astre au méridien ». Et une fois cette convention de langage adoptée par tous, quand on me demandera « est-il telle heure ?», il ne dépendra pas de moi de répondre oui ou non. Passons à l'avant-dernier échelon. L'éclipse a lieu à l'heure donnée par les tables déduites des lois de Newton. C'est encore une convention de langage qui est parfaitement claire pour ceux qui connaissent la mécanique céleste ou simplement pour ceux qui possèdent les tables calculées par les astronomes. On me demande « l'éclipse a-t-elle lieu à l'heure prédite ?» Je cherche dans la connaissance des temps. Je vois que l'éclipse était annoncée pour 9 heures, et je comprends que la question voulait dire L'éclipse a-t-elle eu lieu à 9 heures? Là encore, nous n'avons rien à changer à nos conclusions. Le fait scientifique n'est que le fait brut, traduit dans un langage commode. Il est vrai qu'au dernier échelon, les choses changent. La Terre tourne-t-elle? Est-ce là un fait vérifiable? Galilée et le grand inquisiteur pouvaient-ils, pour se mettre d'accord, en appeler au témoignage de leur sens? Au contraire, ils étaient d'accord sur les apparences. Et quelles qu'eussent été les expériences accumulées, ils seraient restés d'accord sur les apparences sans s'accorder jamais sur leur interprétation. C'est même pour cela qu'ils ont été obligés d'avoir recours à des procédés de discussion aussi peu scientifiques. C'est pourquoi j'estime qu'ils n'étaient pas en désaccord sur un fait. Nous n'avons pas le droit de donner le même nom à la rotation de la Terre, qui était l'objet de leur discussion, et au fait brut ou scientifique que nous avons passé en revue jusqu'ici. Après ce qui précède, il semble superflu de rechercher si le fait brut est en dehors de la science, car il ne peut pas y avoir ni science sans fait scientifique, ni fait scientifique sans fait brut, puisque le premier n'est que la traduction du second. Et alors, a-t-on le droit de dire que le savant crée le fait scientifique? Tout d'abord, il ne le crée pas ex nihilo, puisqu'il le fait avec le fait brut. Par conséquent, il ne le fait pas librement et comme il veut. Quel qu'habile que soit l'ouvrier, sa liberté est toujours limitée par les propriétés de la matière première sur laquelle il opère. Que voulez-vous dire, après tout, quand vous parlez de cette création libre du fait scientifique, et quand vous prenez l'exemple de l'astronome qui intervient activement dans le phénomène de l'éclipse en apportant son horloge? Voulez-vous dire « l'éclipse a eu lieu à 9 heures, mais si l'astronome avait voulu qu'elle eût lieu à 10 heures, cela ne tenait qu'à lui, il n'avait qu'à avancer son horloge d'une heure. » Mais l'astronome, en faisant cette mauvaise plaisanterie, aurait évidemment abusé d'une équivoque. Quand il me dit « l'éclipse a eu lieu à 9 heures », j'entends que 9 heures est l'heure déduite de l'indication brute de la pendule par la série des corrections d'usage. S'il m'a donné seulement cette indication brute, ou s'il a fait ses corrections contraires aux règles habituelles, il a changé sans me prévenir le langage convenu. Si au contraire, il a eu soin de me prévenir, je n'ai pas à me plaindre, mais alors c'est toujours le même fait exprimé dans un autre langage. En résumé, tout ce que crée le savant dans un fait, c'est le langage dans lequel il l'énonce. S'il prédit un fait, il emploiera ce langage, et pour tous ceux qui sauront le parler et l'entendre, sa prédiction est exempte d'ambiguïté. D'ailleurs, une fois cette prédiction lancée, il ne dépend pas évidemment de lui qu'elle se réalise ou qu'elle ne se réalise pas. Que reste-t-il alors de la thèse de M. Leroy? Il reste ceci. Le savant intervient activement en choisissant les faits qui méritent d'être observés. Un fait isolé n'a par lui-même aucun intérêt. Il en prend un si l'on a lieu de penser qu'il pourrait aider à en prédire d'autres, ou bien encore si, ayant été prédit, sa vérification est la confirmation d'une loi. Qui choisira les faits qui, répondant à ces conditions, mérite le droit de citer dans la science? C'est la libre activité du savant. Et ce n'est pas tout. J'ai dit que le fait scientifique est la traduction d'un fait brut dans un certain langage. J'aurais dû ajouter que tout fait scientifique est formé de plusieurs faits bruts. Les exemples cités plus haut le montrent assez bien. Par exemple, pour l'heure de l'éclipse, mon horloge marquait l'heure alpha, à l'instant de l'éclipse. Elle marquait l'heure bêta, au moment du dernier passage au méridien d'une certaine étoile que nous prendrons pour origine des ascensions droites. Elle marquait l'heure gamma, au moment de l'avant-dernier passage de cette même étoile. Voilà trois fêtes distinctes. Encore remarquera-t-on que chacun d'eux résulte lui-même de deux faits bruts simultanés. Mais passons sur cette remarque. Au lieu de cela, je dis l'éclipse a eu lieu à l'heure 24 fois alpha moins bêta divisé par bêta moins gamma. Et les trois faits se trouvent concentrés en un fait scientifique unique. J'ai jugé que les trois lectures alpha bêta gamma, faites sur mon horloge, à trois moments différents, étaient dépourvues d'intérêt, et que la seule chose intéressante était la combinaison alpha moins bêta sur bêta moins gamma de ces trois lectures. Dans ce jugement, on retrouve la libre activité de mon esprit. Mais j'ai ainsi épuisé ma puissance. Je ne puis pas faire que cette combinaison alpha moins bêta divisée par bêta moins gamma ait telle valeur et non pas telle autre, puisque je ne puis influencer ni sur la valeur de alpha, ni sur celle de bêta, ni sur celle de gamma, qui me sont imposées comme des faits bruts. En résumé, les faits sont des faits, et s'il arrive qu'ils soient conformes à une prédiction, ce n'est pas un effet de notre libre activité. Il n'y a pas de frontière précise entre le fait brut et le fait scientifique. On peut dire seulement que tel énoncé de fait est plus brut, ou au contraire plus scientifique, que tel autre. 4. Le nominalisme et l'invariant universel. Si des faits nous passons aux lois, il est clair que la part de la libre activité du savant deviendra beaucoup plus grande. Mais M. Leroy ne la fait-il pas encore trop grande? C'est ce que nous allons examiner. Rappelons d'abord les exemples qu'il a donnés. Quand je dis « le phosphore fond à 44 degrés », je crois énoncer une loi. En réalité, c'est la définition même du phosphore. Si l'on venait à découvrir un corps qui, jouissant d'ailleurs de toutes les propriétés du phosphore, ne fondait pas à 44 degrés, on lui donnerait un autre nom. Voilà tout. Et la loi resterait vraie. De même, quand je dis « les corps graves en chute libre parcourent des espaces proportionnels au carré des temps », je ne fais que donner la définition de la chute libre. Toutes les fois que la condition n'est pas remplie, je dirais que la chute n'est pas libre, de sorte que la loi ne pourra jamais être en défaut. Il est clair que, si les lois se réduisaient à cela, elles ne pourraient servir à prédire, elles ne pourraient donc servir à rien, ni comme moyen de connaissance, ni comme principe d'action. Quand je dis « le phosphore fond à 44 degrés », je veux dire par là tout corps qui jouit de telle ou telle propriété, à savoir de toutes les propriétés du phosphore sauf le point de fusion, fond à 44 degrés. Entendu ainsi, ma proposition est bien une loi, et cette loi pourra m'être utile, car si je rencontre un corps jouissant de ses propriétés, je pourrai prédire qu'il fondra à 44 degrés. Sans doute, on pourra découvrir que la loi est fausse. On lira alors dans les traités de chimie, il existe deux corps que les chimistes ont longtemps confondus sous le nom de phosphore. Ces deux corps ne diffèrent que par leur point de fusion. Ce ne serait évidemment pas la première fois que les chimistes en arriveraient à séparer deux corps qu'ils n'auraient d'abord pas su distinguer, tels par exemple le néodyme et le praséodyme, longtemps confondus sous le nom de didyme. Je ne crois pas que les chimistes redoutent beaucoup que pareille mésaventure arrive jamais au phosphore. Et si, par impossible à l'arrivée, les deux corps n'auraient probablement pas identiquement même densité, identiquement même chaleur spécifique, etc. De sorte qu'après avoir déterminé avec soin la densité, par exemple, on pourra encore prévoir le point de fusion. Peu importe d'ailleurs, il suffit de remarquer qu'il y a une loi, et que cette loi, vraie ou fausse, ne se réduit pas à une tautologie. Dira-t-on que si nous ne connaissons pas sur la Terre un corps qui ne fonde pas à 44 degrés, tout en ayant les autres propriétés du phosphore, nous ne pouvons pas savoir s'il n'en existe pas sur d'autres planètes. Sans doute, cela peut se soutenir et on conclurait alors que la loi en question, qui peut nous servir de règle d'action à nous qui habitons sur Terre, n'a cependant aucune valeur générale au point de vue de la connaissance et ne doit son intérêt qu'au hasard qui nous a placés sur ce globe. C'est possible, mais s'il en était ainsi, la loi n'aurait pas de valeur. Non pas parce qu'elle se réduirait à une convention, mais parce qu'elle serait fausse. De même, en ce qui concerne la chute des corps, il ne me servirait à rien d'avoir donné le nom de chute libre aux chutes qui se produisent conformément à la loi de Galilée, si je ne savais pas d'autre part que, dans telles circonstances, la chute sera probablement libre, ou à peu près libre. Cela alors est une loi qui peut être vraie ou fausse, mais qui ne se réduit plus à une convention. Je suppose que les astronomes viennent de découvrir que les astres n'obéissent pas exactement à la loi de Newton. Ils auront le choix entre deux attitudes. Ils pourront dire que la gravitation ne varie pas exactement comme l'inverse du carré des distances, ou bien ils pourront dire que la gravitation n'est pas la seule force qui agisse sur les astres, et qu'il vient s'y ajouter une force de nature différente. Dans le second cas, on considérera la loi de Newton comme la définition de la gravitation. Ce sera l'attitude nominaliste. Le choix entre les deux attitudes reste libre et se fait par des considérations de commodité, quoique ces considérations soient le plus souvent tellement puissantes qu'il reste pratiquement peu de choses de cette liberté. Nous pouvons décomposer cette proposition. 1. Les astres suivent la loi de Newton en deux autres. 2. La gravitation suit la loi de Newton. 3. La gravitation est la seule force qui agisse sur les astres. Dans ce cas, la proposition 2 n'est plus qu'une définition et échappe au contrôle de l'expérience. Mais alors ce sera sur la proposition 3 que ce contrôle pourra s'exercer. Il le faut bien puisque la proposition résultante 1 prédit des faits bruts vérifiables. C'est grâce à ces artifices que, par un nominalisme inconscient, les savants ont élevé au-dessus des lois ce qu'ils appellent des principes. Quand une loi a reçu une confirmation suffisante de l'expérience, nous pouvons adopter deux attitudes, ou bien laisser cette voie dans la mêlée, elle restera soumise alors à une incessante révision, qui sans aucun doute finira par démontrer qu'elle n'est qu'approximative, ou bien on peut l'ériger en principe, en adoptant des conventions telles que la proposition soit certainement vraie. Pour cela, on procède toujours de la même manière. La loi primitive énonçait une relation entre deux faits bruts A et B. On introduit entre ces faits bruts un intermédiaire abstrait, C, plus ou moins fictif, tel était dans l'exemple précédent l'entité impalpable de la gravitation, et alors nous avons une relation entre A et C que nous pourrons supposer rigoureuse et qui est le principe, et une autre entre C et B qui reste une loi révisable. Le principe, désormais cristallisé pour ainsi dire, n'est plus soumis au contrôle de l'expérience. Il n'est pas vrai ou faux, il est commode. On a trouvé souvent de grands avantages à procéder de la sorte, mais il est clair que si toutes les lois avaient été transformées en principes, il ne serait rien resté de la science. Toute loi peut se décomposer en un principe et une loi, mais il est bien clair par là que, si loin que l'on pousse cette décomposition, il restera toujours des lois. Le nominalisme a donc des bornes, et c'est ce qu'on pourrait méconnaître si on prenait à la lettre les assertions de M. Leroy. Une revue rapide des sciences nous fera mieux comprendre quelles sont ces bornes. L'attitude nominaliste n'est justifiée que quand elle est commode. Quand l'est-elle ? L'expérience nous fait connaître des relations entre les corps. C'est là le fait brut. Ces relations sont extrêmement compliquées. Au lieu d'envisager directement la relation du corps A et du corps B, nous introduisons entre eux un intermédiaire qui est l'espace. et nous envisageons trois relations distinctes, celle du corps A avec la figure A' de l'espace, celle du corps B avec la figure B' de l'espace, celle des deux figures A' et B' entre elles. Pourquoi ce détour est-il dangereux? Parce que la relation de A et B était compliquée, mais différait peu de celle de A' et de B', qui est simple. De sorte que cette relation compliquée peut être remplacée par la relation simple entre A' et B', et par deux autres relations qui nous font connaître que les différences entre A et A', d'une part, entre B et B', d'autre part, sont très petites. Si par exemple A et B sont deux corps solides naturels qui se déplacent en se déformant légèrement, nous envisagerons deux figures invariables mobiles, A' et B'. Les lois des déplacements relatifs de ces figures A' et B' seront très simples. Ce seront celles de la géométrie. Et nous ajouterons ensuite que le corps A, qui diffère toujours très peu de A', se dilate par l'effet de la chaleur et fléchit par l'effet de l'élasticité. Ces dilatations et ces flexions, justement parce qu'elles sont très petites, seront pour notre esprit d'une étude relativement facile. S'imagine-t-on à quelle complication de langage il aurait fallu se résigner si on avait voulu comprendre dans un même énoncé le déplacement du solide, sa dilatation et sa flexion. La relation entre A et B était une loi brute, et elle s'est décomposée. Nous avons maintenant deux lois qui expriment les relations de A et A', de B et B', et un principe qui exprime celle de A' et B'. C'est l'ensemble de ces principes que l'on appelle géométrie. Deux remarques encore. Nous avons une relation entre deux corps, A et B, que nous avons remplacée par une relation entre deux figures, A' et B'. Mais cette même relation entre les deux mêmes figures A' et B' aurait pu tout aussi bien remplacer avantageusement une relation entre deux autres corps A seconde et B seconde entièrement différents de A et B. Et cela de bien des manières. Si l'on n'avait pas inventé les principes et la géométrie, après avoir étudié la relation de A et B, il faudrait recommencer ab ovo l'étude de la relation de A seconde et B seconde. C'est pour cela que la géométrie est si précieuse. Une relation géométrique peut remplacer avantageusement une relation qui, considérée à l'état brut, devrait être regardée comme mécanique. Elle peut en remplacer une autre qui devrait être regardée comme optique, etc. Et alors, qu'on ne vienne pas dire « mais c'est la preuve que la géométrie est une science expérimentale », en séparant ces principes des lois d'où on les a extraits, vous la séparez artificiellement elle-même des sciences qui lui ont donné naissance. Les autres sciences ont également des principes, et cela n'empêche pas qu'on doive les appeler expérimentales. Il faut reconnaître qu'il aurait été difficile de ne pas faire cette séparation que l'on prétend artificielle. On sait le rôle qu'a joué la cinématique des corps solides dans la genèse de la géométrie. Devrait-on dire alors que la géométrie n'est qu'une branche de la cinématique expérimentale? Mais les lois de la propagation rectiligne de la lumière ont contribué aussi à la formation de ces principes. Faudra-t-il que la géométrie soit regardée à la fois comme une branche de la cinématique et comme une branche de l'optique? Je rappelle en outre que notre espace euclidien, qui est l'objet propre de la géométrie, a été choisi pour des raisons de commodité parmi un certain nombre de types qui préexistent dans notre esprit et qu'on appelle groupes. Si nous passons à la mécanique, nous voyons encore de grands principes dont l'origine est analogue, et comme le rayon d'action, pour ainsi dire, est moins grand, on n'a plus de raison de les séparer de la mécanique proprement dite et de regarder cette science comme déductive. En physique, enfin, le rôle des principes est encore amoindri. Et en effet, on ne les introduit que quand on y a avantage. Or, ils ne sont avantageux justement que parce qu'ils sont peu nombreux, parce que chacun d'eux remplace à peu près un grand nombre de lois. On n'a donc pas intérêt à les multiplier. D'ailleurs, il faut aboutir. Et pour cela, il faut bien finir par quitter l'abstraction pour prendre le contact de la réalité. Voilà les bornes du nominalisme, et elles sont étroites. Monsieur Leroy a insisté pourtant et il a posé la question sous une autre forme. Puisque l'énoncé de nos lois peut varier avec les conventions que nous adoptons, que ces conventions peuvent modifier même les relations naturelles de ces lois, y a-t-il dans l'ensemble de ces lois quelque chose qui soit indépendant de ces conventions et qui puisse, pour ainsi dire, jouer le rôle d'invariant universel? On a par exemple introduit la fiction d'êtres qui, ayant fait leur éducation dans un monde différent du nôtre, auraient été amenés à créer une géométrie non euclidienne. Si ces êtres étaient ensuite brusquement transportés dans notre monde à nous, ils observeraient les mêmes lois que nous, mais ils les énonceraient d'une manière toute différente. À la vérité, il y aurait encore quelque chose de commun entre les deux énoncés. Mais c'est parce que ces êtres ne diffèrent pas assez encore de nous. On peut imaginer des êtres plus étranges encore, et la partie commune entre les deux systèmes d'énoncés se rétrécira de plus en plus. Se rétrécira-t-elle ainsi en tendant vers zéro, ou bien restera-t-il un résidu irréductible qui serait alors l'invariant universel cherché ? La question demande à être précisée. Veut-on que cette partie commune des énoncés soit exprimable par des mots ? Il est clair alors qu'il n'y a pas de mots communs à toutes les langues et nous ne pouvons avoir la prétention de construire je ne sais quel invariant universel qui serait compris à la fois par nous et par les géomètres fictifs non euclidiens dont je viens de parler. Pas plus que nous ne pouvons construire une phrase qui soit comprise à la fois des Allemands qui ne savent pas le français et des Français qui ne savent pas l'allemand. Mais nous avons des règles fixes qui nous permettent de traduire les énoncés français en allemand et inversement. C'est pour cela qu'on a fait des grammaires et des dictionnaires. Il y a aussi des règles fixes pour traduire le langage euclidien dans le langage non euclidien, ou s'il n'y en a pas, on pourrait en faire. Et si même il n'y avait ni interprète, ni dictionnaire, si les Allemands et les Français, après avoir vécu des siècles dans des mondes séparés, se trouvaient tout à coup en contact, croit-on qu'il n'y aurait rien de commun entre la science des livres allemands et celle des livres français ? Les Français et les Allemands finiraient certainement par s'entendre, comme les Indiens d'Amérique ont fini par comprendre la langue de leurs vainqueurs après l'arrivée des Espagnols. Mais, dira-t-on, sans doute, les Français seraient capables de comprendre les Allemands, même sans avoir appris l'allemand, mais c'est parce qu'il reste entre les Français et les Allemands quelque chose de commun, puisque les uns et les autres sont des hommes. On arriverait encore à s'entendre avec nos non-euclidiens hypothétiques, bien qu'ils ne soient plus des hommes, parce qu'ils conserveraient encore quelque chose d'humain. Mais en tout cas, un minimum d'humanité est nécessaire. C'est possible. Mais j'observerai d'abord que ce peu d'humanité qui resterait chez les non-euclidiens suffirait non seulement pour qu'on puisse traduire un peu de leur langage, mais pour qu'on puisse traduire tout leur langage. Maintenant, qu'il faille un minimum, c'est ce que je concède. Je suppose qu'il existe je ne sais quel fluide qui pénètre entre les molécules de notre matière à nous, sans avoir aucune action sur elles, ni sans subir aucune action qui en vienne. Je suppose que des êtres soient sensibles à l'influence de ce fluide et insensibles à celle de notre matière. Il est clair que la science de ces êtres différerait absolument de la nôtre et qu'il serait superflu de chercher un invariant commun à ces deux sciences. Ou bien encore, si ces êtres rejetaient notre logique et n'admettaient pas, par exemple, le principe de contradiction. Mais vraiment, je crois qu'il est sans intérêt d'examiner de semblables hypothèses. Et alors, si nous ne poussons pas si loin la bizarrerie, si nous n'introduisons que des êtres fictifs ayant des sens analogues aux nôtres et sensibles aux mêmes impressions, et d'autre part admettant les principes de notre logique, nous pourrons conclure alors que leur langage, quelque différent d'une autre qu'il puisse être, serait toujours susceptible d'être traduit. Or, la possibilité de la traduction implique l'existence d'un invariant. Traduire, c'est précisément dégager cet invariant. Ainsi, déchiffrer un document cryptographique, c'est chercher ce qui, dans ce document, demeure invariant quand on en permute les lettres. Quelle est maintenant la nature de cet invariant? Il est aisé de s'en rendre compte, et un mot nous suffira. Les lois invariantes, ce sont les relations entre les faits bruts, tandis que les relations entre les faits scientifiques restaient toujours dépendantes d'une certaine convention.